Mais je trouve qu'il y a un parallèle avec notre salle. Toute proportion gardée. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les dorures, c'est pas la même ampleur, c'est pas aussi grand, c'est pas aussi luxueux. Mais je crois que c'est la même démarche. C'est-à-dire avoir un endroit spécial, dédié au Seigneur et réservé pour le culte qu'on veut rendre à Dieu. Vous êtes d'accord ? Et pourtant, c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est pas non plus le bâtiment qui fait la vraie église. Qu'est-ce qui change pour l'église entre la salle 14 de l'espace associatif et ici ? Qu'est-ce que ça change pour chacun d'entre nous, individuellement, personnellement ? Autrement dit, qu'est-ce qui fait une vraie, une belle, une vivante église ? Alors le bâtiment, c'est important, c'est très important, il ne faut pas le négliger. Qu'est-ce que vous diriez si on n'était pas équipé, s'il y avait des fuites partout, si c'était mal isolé, mal peint, etc. Mais ce ne serait pas sérieux. Mais le bâtiment est une vraie église si et seulement si cette belle salle, ce beau bâtiment sont le reflet de notre engagement, de notre volonté de venir dans cet endroit spécial pour le Seigneur, pour lui rendre un culte, qu'il soit agréable, pour l'honorer, le remercier et le prier. Et c'est cette attitude-là, cette disposition de cœur, comme je dis souvent, ou cette disposition d'esprit, si vous préférez, qui fait la différence, qui fait, si elle est sincère, que ce bâtiment devient une vraie église, un temple à la gloire de Dieu. Et si ce n'est pas clair pour chacun d'entre nous, il est grand temps d'en prendre conscience. Parce qu'autrement, eh bien, on risque de perdre cette dimension spirituelle, on va dire. Et alors notre foi va devenir de la religion, ça va devenir une convention. Et quand on en arrive là, l'hypocrisie n'est pas loin, et on s'assoupit, et on attriste le Saint-Esprit, et finalement, l'Église s'éteint plus ou moins vite. Et alors, le bâtiment, c'est plus une église, c'est un tas de pierres ou un tas de béton, mais c'est plus une église. Vous savez ce qui reste du temple de Jérusalem dont je parlais il y a 15 jours, le temple de Salomon ? Vous savez ce qu'il en reste ? Rien du tout. Il reste juste un petit mur de soutènement de l'esplanade du temple qui a été reconstruit après le temple de Salomon par Hérode, à l'emplacement du temple de Salomon. Tout le reste a été détruit. Et c'est ce qu'on appelle le mur des lamentations. En fait, le mur des lamentations, c'est ce qui reste de la copie du temple de Salomon. Vous voyez, c'est quand même pas grand-chose. Et c'est ce mur, vous avez certainement déjà vu, c'est ce mur où les juifs pratiquants d'aujourd'hui, en Israël, viennent marmonner des prières. Vous savez, ils vont lire la Torah devant ce mur, parce que c'est tout ce qui leur reste, quelques pierres. Et ils se balancent, vous savez, d'avant en arrière, comme ça, contre le mur. Vous avez déjà vu ? Avec le Schreumel et puis les papillotes. Et ils mettent aussi des petits rouleaux dans les trous qu'il y a entre les pierres de ce mur, sur lesquels ils écrivent leurs prières. C'est un peu la boîte aux lettres de Dieu pour eux. Pratique. Mais est-ce que c'est pas illusoire ? Parce qu'en fait, ce qui était le temple à la gloire de Dieu, là où Dieu était présent, eh bien, c'est devenu un tas de cailloux. Et ça fait penser à ce passage du livre de Jérémie, au chapitre 7, et à partir du verset 1. On nous dit « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dis « Écoutez la parole de l'Éternel. » De l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice, envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai demeuré à vos pères, d'éternité en éternité. » Je trouve cette répétition terrible. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est ces prières rituelles, ces chants. C'est une manière aussi de... On a l'impression qu'on revoit ces juifs orthodoxes qui se dandinent devant le mur des Lamentations. On a l'impression qu'ils veulent se convaincre eux-mêmes que c'est bel et bien le temple de Dieu, que c'est bel et bien là où Dieu est présent, en répétant, à force de répétition, et puis essayer de se convaincre. Mais ça, c'est illusoire si Dieu n'est pas là. Si le peuple qui prétend l'honorer ne réforme pas ses voies. Et à qui s'adresse Jérémie ? Eh bien, il s'adresse à ceux qui franchissent la porte du temple pour se prosterner devant Dieu, pour lui rendre un culte. Alors vous allez me dire, mais où est le problème ? Qu'est-ce qu'ils font de mal ? Eh bien, tout simplement, ils ne sont pas sincères. Parce que puisque le Seigneur leur dit de changer, il leur dit de réformer vos voies, c'est-à-dire votre parcours, ce que vous projetez de faire, ce que vous avez envie de faire, parce que ces personnes-là ne suivent pas les voies de Dieu, ils ne les cherchent même pas. Il leur dit aussi de réformer leurs œuvres, parce que si on n'a pas cet amour sincère de Dieu, eh bien tout ce qu'on peut faire, même les œuvres les plus méritoires, sont vaines, sont inutiles parce qu'il n'y a pas la bonne motivation. Et c'est terrible dans l'Ancien Testament de voir qu'il y a le temple de Salomon, le temple de l'Éternel, qui est présent physiquement, cet endroit où on peut rencontrer Dieu, et en même temps ce peuple qui devrait être rempli de la présence et de l'amour de Dieu et qui s'éloigne, ou dont, comme dit Ésaïe au chapitre 29, quand c'est marqué que « ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Dieu ne se contente pas de ça. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. On peut avoir le temple de Salomon en plein milieu avec toute sa splendeur, toute sa richesse et toute la force symbolique que ça peut avoir. Si on n'est pas sincère, si on ne réforme pas nos voies pour accomplir la volonté de Dieu, eh bien c'est inutile, c'est un tas de cailloux. Ce que le Seigneur attend, c'est qu'on pratique la justice, la bienveillance, la miséricorde envers ceux qui souffrent, comme lui-même a été miséricordieux et bienveillant envers nous. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'on oublie vraiment trop vite ce que le Seigneur a fait pour nous quand on était loin de lui. Alors le résultat de cet état d'esprit dont parle Ésaïe, eh bien c'est le mur des lamentations dont je parlais. C'est terrible, parce que ce temple qui était dédié à la gloire et à la puissance de Dieu, eh bien il ne reste plus que quelques cailloux. Et vous remarquerez quand même la symbolique, je trouve, très forte des termes. Le temple, c'est là où on peut rencontrer Dieu, où tous ceux qui viennent bien disposés peuvent rendre un culte à Dieu. Et le mur des lamentations, eh bien un mur, c'est un obstacle. C'est quelque chose qui ferme l'horizon, qui nous empêche d'avancer. Je trouve que c'est vraiment révélateur. Et pourtant, Dieu avait mis en garde son peuple à travers les prophètes. À plusieurs reprises, ils ont annoncé que si le peuple ne revenait pas à Dieu, si le peuple n'était pas rempli de reconnaissance et d'amour envers son Dieu, eh bien, tout allait être détruit, le temple et même le pays. Et ça a été même annoncé clairement par Jésus dans les évangiles, dans Marc 13 notamment, où on nous dit que un jour, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle belle pierre, quelle construction !» parlait du temple d'Hérode. Et Jésus lui répondit « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et ça s'est accompli. 70 ans plus tard, il y a les Romains avec Titus qui viennent tout détruire. Et pourquoi ? À cause de l'injustice et de l'hypocrisie religieuse de ceux qui prétendent être le peuple de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, ah, c'est terrible. Ah, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a été infidèle? Qu'est-ce qu'ils n'ont rien compris? Ah, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils étaient hypocrites? Je pense que ce n'est pas seulement réservé au peuple de l'époque. C'est valable encore aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple, comme d'habitude, strictement autobiographique et véridique, et malheureusement véridique, juste pour vous montrer que c'est toujours et encore d'actualité. Et puis après, on verra ce qu'on peut faire pour changer ça, quand même. Je connais une église dans le Nord, que vous ne connaissez pas, à part Fabienne, qui a un beau bâtiment, sympa, belle église et tout. Et pourtant, eh bien, il y a une rivalité incompréhensible entre le responsable de cette église et le secrétaire. Il y a une sorte de lutte pour le pouvoir, de mainmise sur l'organisation de l'église. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pourtant, il y a des belles prédications, il y a tout le vocabulaire évangélique, toutes les citations, les références. Les prédications sont longues et ennuyeuses à souhait. Il n'y a pas de problème. On se croirait vraiment dans une église. Et pourtant, c'est vraiment terrible parce que c'est révélateur d'un esprit éteint, d'un Saint-Esprit éteint. Des fois, je me dis, vous connaissez la chanson « Parole et parole et parole ». Je pense que des fois, le Seigneur, quand il voit des cultes, certains cultes, il doit se dire la même chose. C'est que des paroles. Parce que les actes disent tout autre chose. Et là, moi, quand on y est allé, j'ai vu la méfiance, l'absence de pardon, la manipulation, la volonté de pouvoir. Et ça, c'est pas une église. Vous pouvez avoir une croix sur le bâtiment, vous pouvez avoir écrit « Église protestante évangélique », tout ce que vous voulez. C'est du pipeau. Et le Seigneur nous le dit dans les évangiles. Et il nous le dit dans Marc au chapitre 10, dans Luc au chapitre 22 et dans Matthieu au chapitre 20. Quand le Seigneur parle trois fois, à mon avis, c'est qu'il faut faire trois fois plus attention à ce qu'il dit. Et par exemple, Matthieu 20, au verset 25, Jésus appela ses disciples et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, votre esclave dans certaines traductions. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Je ne sais pas si vous le comprenez comme moi, mais c'est un ordre. Il n'en sera pas de même parmi nous. Il ne dit pas « essayez d'éviter, faites votre possible ». Non, ce ne sera pas comme ça. Parce que ça, c'est le monde. Et ce ne sont pas des vertus évangéliques. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le résultat de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. Il y a ce passage dans Galates, chapitre 5. Et ça, il faut vraiment que ce chapitre-là, on l'ait en tête. Il faudrait même l'apprendre par cœur. Galates 5, 22. On nous dit que le fruit de l'esprit, autrement dit, la conséquence naturelle et inévitable de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Donc voilà. Donc cette église, c'est un beau bâtiment. Et quelque part, faites un peu le miroir ici. C'est un bâtiment propre, un beau bâtiment. Mais, est-ce que les comportements qu'on voit dans l'Église sont selon le cœur de Dieu ou pas? Ça fait toute la différence entre une vraie Église, qui mérite sa croix, si vous voulez, et un tas de parpaings. Alors, heureusement, dans cette petite Église, il y a une petite poignée de fidèles. il y a un faible reste. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans la parole, on voit que le Seigneur met à part des personnes pour maintenir sa présence. Même si tout le pays d'Israël était infidèle, il y avait toujours un faible reste qui lui restait fidèle, qui restait fidèle au Seigneur. Et c'est un combat spirituel qu'il faut mener, et qu'il faut mener de manière spirituelle, pas selon notre nature, pas selon nos manières de voir, parce qu'autrement c'est le carnage, mais avec les armes spirituelles que le Seigneur nous donne. Pas pour la vaine gloire, mais avec amour et pour la gloire de Dieu. Et c'est tout ça qui fait la différence entre une église de façade et une vraie église. Et là, je pense qu'il faut vraiment qu'on réalise qu'il y a une exigence absolue. Le Seigneur exige que nous soyons à son image, que nous soyons remplis de son esprit, que nous soyons débordants de son amour. Et ça, c'est une exigence qui est tellement forte que parfois ça en devient violent. Il y a un épisode de ce que Jésus a accompli dans les évangiles qui est rapporté deux fois lui aussi. C'est dans Jean 2, au verset 13, où on nous dit « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » C'est violent. Et dans Marc 11, on nous parle du même événement, avec quelques précisions supplémentaires. Au verset 15, on nous dit, « Jésus et les disciples arrivèrent à Jérusalem. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. » Alors c'est vraiment une expression terrible, une caverne de voleurs. Qu'est-ce qui a bien pu prendre, prendre Jésus pour qu'il se comporte comme ça? Est-ce qu'on n'a pas l'image d'un Jésus doux, bon, plein de compassion? Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est étonnant. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Qu'est-ce qui lui a pris ce jour-là? Il était mal luné? Déjà dans Jérémie, au chapitre 7, au verset 11, donc juste avant le passage que j'ai lu tout à l'heure, que je viens de lire, c'est-à-dire ces personnes qui disent « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Eh bien, ces personnes qui prononcent ces paroles et qui sont en dehors de la volonté de Dieu, c'est les mêmes auxquelles le Seigneur reproche de faire de son temple une caverne de voleurs. En fait, Jésus cite ce passage des Ésaïe. Et une caverne de voleurs, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils en font leur repère. C'est là où ils entassent le fruit de leurs crimes ou de leurs exactions. Et oui, eux-mêmes, ils se cachent, sous couvert de piété. Vous voyez l'image? Ils sont en apparence des religieux, ils sont pieux, mais ils ne sont pas sincères devant Dieu. Et donc, pour Jésus, qu'est-ce qui posait problème? Il y a toujours eu des marchands dans le temple. C'était lié au culte que le peuple d'Israël rendait au Seigneur. Il y avait toujours eu des marchands pour proposer aux fidèles des animaux offrant un sacrifice. Et même du temps de Jésus, il fallait changer la monnaie parce que le peuple de Dieu ne voulait pas acheter les offrandes ou faire des dons au temple avec de l'argent romain, parce qu'ils étaient sous occupation romaine. Et donc, ils convertissaient l'argent romain en shekel du temple, en monnaie qui était réservée au culte. Vous allez me dire, mais c'est très bien. Où est le problème? Eh bien déjà, ces changeurs, ils prenaient forcément une commission, un pourcentage. Ils faisaient leur profit. Et ils n'étaient peut-être pas tous très honnêtes. Et puis il y a eu une réforme, un petit peu avant l'époque de Jésus. et les marchands, en fait, avaient obtenu le droit de se tenir à l'intérieur du temple, au lieu de rester à l'extérieur comme ils le faisaient avant. Et donc de continuer leur commerce, mais dans le lieu même où on rendait culte à Dieu. Alors imaginez un peu, ça devait ressembler au salon de l'agriculture, avec les animaux qui beuglent, qui salissent, les marchands qui crient, toute l'agitation, les litiges. Et ça, c'était vraiment l'image d'une réalité spirituelle. C'était vraiment des voleurs qui changeaient le temple de Dieu, le temple là où on rendait le culte à Dieu, en caverne de voleurs. C'est-à-dire quand, sous couvert de spiritualité ou de religiosité, on cherche à servir ses propres intérêts ou sa propre gloire ou accomplir sa propre volonté au lieu de faire celle du Seigneur. Et là, à tous les coups, on perd. Parce que le Seigneur ne l'accepte pas. Et heureusement, par contre, c'est la stricte responsabilité de chacun devant Dieu. Mais ça, c'était insupportable pour le Seigneur. Alors que le temple devait être une maison de prière, de recueillement, de recherche de la volonté de Dieu, de louange. Et c'est sa fonction première. Et c'est ce à quoi on reconnaît une vraie église. Ce n'est pas le bâtiment qui porte le logo, c'est là où on prie le Seigneur. C'est là où on le loue. Et pourquoi le Seigneur s'est comporté d'une manière aussi violente? Juste après, dans le même passage, au verset 17, on nous dit « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Mais quel miracle montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit ça, et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et là, on comprend mieux de quel droit Jésus pouvait faire une chose pareille. Pourquoi il a semé le désordre? Pourquoi il a empêché le commerce et toute l'organisation qu'il y avait autour du temple et du culte et qui arrangeait bien tout le monde? Et c'est pour ça que les pharisiens lui demandent « Mais de quel droit tu fais ça ?» Et il fallait bien un miracle pour leur prouver que c'était Dieu qui l'approuvait, que c'était Dieu qui l'envoyait. Moi, je suis sûr, par contre, que les pharisiens n'attendaient pas de miracle de Jésus. Ils ne pensaient même pas que ce soit possible, parce qu'ils étaient endurcis, parce qu'ils n'avaient aucun respect de Dieu en réalité. C'était juste pour accuser le Seigneur. Et vous remarquerez que le Seigneur ne va pas faire un miracle pour répondre à leur attente, mais un miracle bien plus grand encore, le miracle de sa résurrection, à laquelle d'ailleurs les pharisiens n'ont même pas cru non plus. Alors que cette résurrection, c'est le plus grand miracle, c'est la garantie pour celui qui croit en Jésus, qui croit que Jésus est bien le Christ, qui croit que c'est bien Dieu qui l'a ressuscité, et bien que ce même Dieu qui a ressuscité le Seigneur accomplira le même miracle pour ceux qui acceptent la grâce qu'il propose. Et là, on voit vraiment tout le décalage entre la religion et la foi. Les religieux parlent du temple de Pierre, ils ne voient que ça, ils voient que le bâtiment. Jésus leur parle du temple qu'il est lui-même. Le temple a été détruit, parce que c'était une construction humaine. Jésus, lui, il est ressuscité, parce qu'il est la source de la vie. Vous voyez, c'est vraiment un fossé irréconciliable, c'est incompréhensible, c'est irréconciliable. C'est un dialogue de sourds. Tout ça parce que le temple n'était plus une maison de prière. Et j'ajouterais une maison de louange, comme on a fait ce matin. Alors pour revenir à cette église, dont la situation m'afflige beaucoup, parce qu'on se sent vraiment démuni, eh bien, à mon avis, ce responsable, plus ou moins mal intentionné, on va dire, a commis une erreur stratégique. Parce que la personne qu'il a harcelé, on va dire, a démissionné de son poste de secrétaire à cause des difficultés qu'il avait créées. Mais cette même personne a demandé de continuer à s'occuper de la louange. Et le responsable lui a répondu « Oh, ça, pas de problème. » Et là, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Déjà parce que cette personne, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur dans les fonctions administratives, dans la responsabilité de la louange, dans la présence à toutes les activités, notamment dans la prière, les repas d'église, le ménage, etc. Et ça dénote vraiment une volonté de servir malgré tout, même s'il n'y a rien de pire que d'avoir des problèmes dans l'église. Et c'est une erreur, pourquoi ? Parce que la louange, comme la prière, ne sont pas des activités secondaires dans l'église, ce n'est pas de la décoration, ce n'est pas accessoire. C'est le cœur et le sens même de l'église. Et c'est ça le vrai pouvoir, si tant est qu'il faille chercher un pouvoir dans l'église. Ce n'est pas le pouvoir qu'on exerce pour imposer sa propre volonté aux autres, c'est celui qui vient de Dieu quand on pile notre propre volonté à la sienne. Et ça, c'est toute la différence entre le religieux et celui qui a la foi. La prière et la louange, ce sont des puissances, une puissance de Dieu pour qui veut glorifier le Seigneur. Et il y a ce passage qu'il faut connaître par cœur. C'est dans les psaumes, psaume 18, verset 3. Qui dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Tout simplement. Et ce n'est pas juste une belle phrase. C'est vraiment une promesse de Dieu. C'est une puissance de Dieu dans la vie de ceux qui se confient en lui. La louange qu'on adresse à Dieu fait que Dieu nous délivre de tout. Et il y a une autre promesse. Un engagement aussi clair et irrévocable du Seigneur envers nous. C'est dans 2 Chroniques au chapitre 7. Et c'est donc juste après le passage de la prière de Salomon dont j'avais parlé il y a 15 jours, qui nous dit, et j'ai déjà dû le citer 15 fois depuis ces derniers temps, donc 2 Chroniques 7 au verset 14, nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La prière et la louange sont ce qui fait qu'une église est vivante. C'est lorsque on vit une vie de louange et de prière, chacun personnellement. Eh bien, quand on vit ça personnellement et qu'on se réunit tous ensemble au nom de Dieu, eh bien, l'endroit dans lequel on se trouve devient une église, et une vraie église, une belle église, une église forte. Et c'est quand son peuple, quand le peuple de Dieu est uni dans la prière et la louange, que la présence de Dieu se révèle, comme dans le temple de Salomon. Toujours au chapitre 2, dans 2 Chroniques au chapitre 7, on nous dit que lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël, tout le peuple de Dieu, vit que descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Et c'est ça, en fait, la puissance de la louange. Quand le peuple de Dieu est uni pour louer le Seigneur, eh bien, c'est là qu'on voit sa gloire. Alors, dans le temple de Salomon, ça s'était traduit par une nuée, une fumée, une sorte de feu qui parlait à l'époque au peuple de Dieu. Aujourd'hui, si on avait ça, on en sortirait les extincteurs. Mais il faut bien comprendre que c'est une image matérielle d'une réalité spirituelle. Et cette présence de Dieu, il faut y être sensible. Dans ce temple qu'est cette salle, si on est tous unis pour le prier et le louer, eh bien, il y a la présence de Dieu, le feu, la nuée de Dieu, et sa gloire qui remplit la maison. Donc c'est bien la preuve que l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est la somme de chacun d'entre nous, quand on est unis par le même esprit. Et donc, chacun a son rôle à jouer. Chacun doit rechercher la face de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, Et chacun doit mettre sa vie en règle devant le Seigneur. Chacun doit avoir une vie de prière. Chacun doit se mettre au service du Seigneur. Et là, à ce moment-là, eh bien, le peuple de Dieu, l'Église, est victorieuse. Et c'est une puissance incroyable, parce que Dieu va agir et exaucera les prières qu'on lui aura adressées selon sa volonté. Et il accomplira des choses extraordinaires pour la gloire de son nom. Je ne sais pas si vous vous souvenez des débuts du peuple d'Israël, juste après la sortie d'Égypte, il y avait la tente de la rencontre, où Dieu était présent, et qui se traduisait aussi par une nuée qui était visible. Après, il y a eu le temple de Salomon, avec les prêtres, les sacrifices, et tout ce qu'on a vu dans le texte de 2 Chroniques. Et toute cette présence de Dieu, en fait, eh bien, on peut la retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle salle de culte. Parce que de la même manière qu'il accompagnait le peuple d'Israël dans le désert, et bien de la même manière, il nous accompagne. Et le Seigneur veut manifester sa présence et sa gloire parmi son peuple, dans son Église, dans nos cœurs, dans nos vies. Et si on comprend ça, c'est ce qu'on verra s'accomplir. Il y a plusieurs passages, notamment dans 1 Corinthiens, qui nous répètent une réalité spirituelle fondamentale dont il faut prendre conscience, même si ça peut être difficile de comprendre ça. Il faut vivre. Par exemple, dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, on nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même ?» Dans 1 Corinthiens 3, au verset 16, on nous dit aussi « Ne savez-vous pas que le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habitent en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » J'aime beaucoup cette répétition du « ne savez-vous pas ». Je pense que lorsque ça a été écrit, la personne qui a écrit sous l'inspiration de Dieu savait bien que c'était une réalité difficile à saisir et à vivre. Mais il faut vraiment comprendre que maintenant, le temple de Dieu, ce n'est plus un édifice, ce n'est plus un tas de pierres, c'est chacun d'entre nous, lorsqu'on accueille le Saint-Esprit et qu'on vit selon la volonté du Seigneur. Et c'est ce qu'on voit aussi dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 4, lorsque l'apôtre nous encourage en nous disant « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Le Seigneur a remplacé les pierres de taille qui construisaient les bâtiments du temple et des autres bâtiments qui ont été faits pour l'honorer, par des pierres spirituelles que nous sommes. Alors j'ai envie de dire, si, c'est une hypothèse, au cas où, hein, si on a vraiment, réellement, sincèrement, totalement donné notre vie au Seigneur, si on a reçu son esprit avec joie, si on vit pour lui, alors on est devenu son temple. Et c'est un temple dans lequel on n'offre plus des sacrifices d'animaux, mais dans lequel on offre des sacrifices spirituels, nos propres vies, notre amour, notre zèle pour la maison du Seigneur. Et ça fait toute la différence. Et enfin, pour comprendre ce passage de la pierre matérielle aux pierres vivantes, pour comprendre ce que c'est vraiment une église, il y a un critère, un seul. Mais par contre, c'est un critère absolu. C'est une preuve incontestable que c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. C'est quoi ? Vous ne savez pas. C'est l'amour fraternel. Tout simplement. C'est ça le critère infaillible. Je parlais de cette église du Nord, il n'y a pas d'amour fraternel. Mais c'est normal, il n'y a plus la présence de Dieu. Il y a eu quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne veut pas dire que Dieu abandonne son église, parce que l'église peut sortir encore plus forte de ce genre d'épreuve. Parce qu'il y a un tri qui se fait parce que ceux qui veulent servir le Seigneur eh bien, se lèvent et se mobilisent, et parce que le Seigneur assiste par son esprit. Et ça, c'est pour ça que je suis tout à fait optimiste pour cette Église, parce que dans le combat spirituel, c'est là que le Seigneur donne la victoire à son peuple. Mais il y a des combats. Et la preuve que c'est bel et bien l'Église de Dieu, eh bien, c'est l'amour fraternel. C'est plus que tous les beaux discours, parce que les discours, on peut en faire plein. C'est plus que toutes les bonnes œuvres, parce que n'importe qui peut faire des bonnes œuvres. C'est tous les comportements les plus méritoires, c'est même plus que tous les dons spirituels, ou que tous les fruits spirituels, que tout ce qu'on peut faire de bien pour le Seigneur. Parce que cet amour fraternel, c'est ce qui donne sens à nos actes. C'est ce qui garantit la sincérité de nos motivations. Parce que ça vient de Dieu vers nous, cet amour, il vient de Dieu vers nous par sa grâce, et on lui retourne sous la forme de notre prière, de notre louange, de notre amour, de notre vie qu'on lui dédie. Et quand l'Église vit cet amour fraternel, eh bien c'est cette épouse parfaite dont nous parle la parole. L'Église, c'est l'épouse de Christ, belle et parfaite. Vous allez me dire, c'est pas flagrant. C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et il faut laisser le Seigneur, par son Saint-Esprit, accomplir son œuvre dans notre cœur et dans notre Église. Il faut se laisser dévorer par le zèle pour sa maison qui animait le Seigneur quand il a chassé les marchands du temple. Il faut chasser tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans sa maison. Il faut désirer la parfaite stature de Christ à laquelle le Seigneur nous appelle. Et là, vous verrez que l'Église ne va pas vous apparaître misérable et pleine d'imperfections et de disputes et de rivalités, mais elle va vous apparaître belle, parfaite. Elle va vous apparaître comme étant le temple de l'Éternel, l'endroit où tous ceux qui se confient en lui ont un libre accès auprès du Seigneur, et surtout l'endroit où sa gloire est proclamée. Et ça change tout. Ça fait que ce bâtiment n'est pas juste un tas de parpaings, mais qu'il est bel et bien le temple de l'Éternel.